France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie et bonjour à toutes et à tous. La France et plusieurs autres pays ont donc reconnu hier l'état de Palestine depuis la tribune de l'ONU, manière de renforcer la pression sur Israël pour mettre un terme à la guerre à Gaza dans le cadre d'un mouvement certes historique, mais dont la portée reste évidemment encore avant tout symbolique. L'occasion de s'interroger aussi sur le danger que constitue aujourd'hui la force du retour des États-nations. Nous serons au siège des Nations Unies dès le début du journal. Le Danemark dénonce une grave attaque après le survol hier soir de drones au-dessus de Copenhague, mais aussi dans le ciel de la capitale de son voisin norvégien, Oslo. On parlera aussi justice internationale après que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé hier leur retrait de la Cour pénale internationale. Enfin, l'actualité en France sont notamment toujours ces tractations politiques qui se poursuivent encore aujourd'hui pour tenter de bâtir un budget capable d'éviter une censure parlementaire tout en assainissant les finances publiques du pays. Face à la stratégie d'extermination aveugle et systématique mise en œuvre par Israël, la reconnaissance de la Palestine par plusieurs États occidentaux alliés de l'État hébreu, parmi lesquels certaines des plus grandes puissances mondiales, est-elle de nature à ressusciter un message d'espoir capable de renaître des cendres du brasier de Gaza, ou bien les efforts des partisans d'une paix durable au Proche-Orient sur la base du droit international ne sont-ils qu'une échappatoire morale vouée à rejoindre 75 années d'échecs diplomatique. Pour l'heure, force est de constater que ce que certains entrevoient comme un profond changement de conscience politique susceptible de mettre fin à une injustice historique continue à se heurter à l'obstination unanime du gouvernement suprémaciste de Benjamin Netanyahou, bien déterminé à ne laisser aucune place. Il n'y aura pas d'État palestinien, répète à l'envi le Premier ministre, sans compter que, comme Israël, les États-Unis fustigent eux aussi la reconnaissance d'un État palestinien. De quoi forcément s'interroger, insiste-t-on aujourd'hui à la fin d'un système qui, depuis un siècle maintenant, régit tant bien que mal la marche du monde, le multilatéralisme au profit de la multipolarité. Notre envoyé spécial à New York au siège de l'ONU, Franck Madvon, a rencontré l'une des mémoires des Nations Unies, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres.
Stéphane Dujarric vit sa 25e Assemblée Générale. Il a travaillé aux côtés de trois secrétaires généraux, Kofi Annan, Ban Ki-moon, Antonio Guterres. Voici ce que lui inspirent les attaques de Trump et d'autres contre le multilatéralisme.
Cette organisation en a vu d'autres. Nous ne sommes pas une organisation globaliste. Nous sommes une organisation multinationale. Si on veut un avenir positif pour tous, nous avons tous un devoir de préserver les Nations Unies.
La preuve, dit-il, l'ONU subit des attaques 11 mois par an, mais tout le monde s'y retrouve chaque année au moment de l'Assemblée Générale.
Cette semaine, nous allons avoir 1600 rencontres bilatérales entre différents pays. Ça reste le centre de la diplomatie internationale et ça reste l'endroit où les solutions à tous ces problèmes qui ne respectent pas les frontières peuvent être trouvées.
Encore faut-il réformer l'ONU, selon le porte-parole du secrétaire général.
Le monde n'est plus le même. Nous avons maintenant des puissances qui n'existaient pas en 1945 et souvent, ces pays ne se sentent pas représentés dans nos institutions. Ça doit passer par une réforme du Conseil de sécurité. Il est inconcevable que ce Conseil de sécurité n'ait pas un seul siège permanent africain.
Cette réforme du Conseil de sécurité est poussée par la France, qui lance une nouvelle initiative aujourd'hui. Elle y voit une réponse à la crise du multilatéralisme.
Alors si l'on considère que le multilatéralisme, qui constitue donc l'ADN même des Nations Unies, repose sur des principes fondateurs tels que la consultation, l'inclusion, la solidarité, c'est vrai que le mépris des usages diplomatiques tels qu'exercés notamment par un certain Donald Trump aurait plutôt tendance à nous prouver combien le monde tel que nous l'avons connu appartient désormais au passé, car même si le président américain n'a pas initié, bien entendu, cette rupture, il l'a indéniablement accélérée. Et pourtant, c'est précisément à la tribune de l'Assemblée général de l'ONU, le milliardaire et locataire de la Maison-Blanche, s'exprimera cet après-midi. Alors, celui qui en 8 mois à peine aura renversé l'ordre géopolitique mondial devrait a priori se délecter de l'exercice, qui plus est dans le temple donc du multilatéralisme. Beaucoup s'attendent déjà à ce que Donald Trump vante notamment son action que lui-même et lui seul ou presque juge pacificatrice. Il devrait d'ailleurs profiter de l'occasion pour s'entretenir en tête-à-tête avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui pour sa part devrait s'efforcer à nouveau de battre le rappel face à l'inflexibilité impérialiste du maître du Kremlin, Vladimir Poutine. À ce titre d'ailleurs, et en guise peut-être d'avertissement justement avant cette rencontre la nuit dernière, de nouvelles frappes de l'envahisseur ont fait 2 morts, 2 civils. Au total, la Russie a lancé 3 missiles et 115 drones.
S'agissant toujours de ces engins sans équipage dont le pilotage est automatique, 3 ou 4 d'entre eux ont survolé hier soir le ciel de Copenhague.
Oui, au point d'obliger l'aéroport de la capitale danoise à rester fermé plusieurs heures. Idem chez son voisin norvégien. L'aéroport d'Oslo a lui aussi dû suspendre ses activités à la suite de 2 observations similaires. Alors à ce stade, l'enquête n'a pas permis de déterminer l'origine de ces intrusions, ni de savoir s'il existait d'ailleurs un lien entre les 2 incidents. Seule certitude, ceux-ci interviennent dans le sillage d'une série déjà longue de plusieurs perturbations ces derniers jours. En l'occurrence, une cyberattaque qui le week-end dernier a affecté les aéroports de Londres, Berlin et Bruxelles, mais aussi plusieurs violations de l'espace aérien de la Pologne, de la Roumanie et de l'Estonie. C'est en tous les cas ce qu'a tenu à rappeler ce matin la première ministre danoise, qui dénonce l'attaque, je cite, la plus grave contre une infrastructure critique dans son pays. Les précisions de notre correspondant dans la région, Ottilia Ferré.
C'est pendant près de 4 heures que 3 ou 4 drones de grande taille ont fait des allers-retours suspects à l'aéroport de Copenhague. Sur place hier soir, la police n'arrive pas à savoir d'où ils viennent, ni même qui les pilote, et il est impossible de les abattre, c'est bien trop dangereux, car sur le tarmac, les avions sont remplis de passagers. Les drones finissent par disparaître et l'aéroport a pu rouvrir vers minuit 30. Dans le même temps, à 500 km de là, le même scénario s'est déroulé à Oslo. 2 drones ont longuement survolé l'aéroport de la capitale norvégienne. Pour le président ukrainien Zelensky, ça ne fait aucun doute, c'est la Russie qui est derrière cette intrusion. Il est vrai que ces dernières semaines, des avions russes ont violé l'espace aérien polonais, puis estonien. Alors côté danois et norvégien, personne n'est encore pointé du doigt, mais à Copenhague, la police évoque, je cite, un acteur compétent qui possède certaines capacités, une volonté et les outils pour se montrer ainsi. La première ministre danoise a, elle, déclaré ce matin que cela en dit long sur l'époque dans laquelle nous vivons et ce sur quoi nous devons être prêts à faire face. Des investigations sont en cours pour élucider ce mystère dans les 2 pays scandinaves.
Et ce matin, la Russie dit ne pas être impliquée dans le survol de drones à Copenhague.
Quand le Burkina Faso, le Mali et le Niger continuent de tourner le dos à l'Occident.
Les 3 pays saliés aujourd'hui gouvernés par des juntes militaires ont annoncé hier soir leur retrait de la Cour pénale internationale, dénonçant un instrument de répression néocoloniale aux mains de l'impérialisme. En l'occurrence, l'institution essuie régulièrement des critiques, et notamment dans les pays africains où elle est accusée de poursuivre majoritairement des personnalités du continent. Et puis au-delà, c'est vrai que la place de la CPI, dont sont absents, on le rappelle, la Russie, la Chine, mais aussi Israël et les États-Unis, interrogent de plus en plus aujourd'hui sur l'ordre international et la nature même de l'état de droit que les démocraties ont contribué à construire. Quoi qu'il en soit, Nathanaël Charbonnier, en annonçant ainsi leur retrait, le Burkina, le Mali et le Niger entendent désormais revendiquer une politique plus que jamais souverainiste.
Alors oui, plus les mois passent et plus le fossé s'agrandit entre les 3 pays qui forment l'Alliance des États du Sahel, l'AES, et l'Occident. Cela va de l'interdiction d'émettre pour certains médias occidentaux, en passant par le départ des forces militaires occidentales, sans compter sur le rapprochement ostentatoire du Mali, du Burkina et du Niger avec la Russie et ses milices privées. Mais on peut ajouter que se trouve aussi dans le viseur le franc CFA qui pourrait un jour disparaître. S'ajoute donc aujourd'hui le retrait de la CPI. L'argument pour le justifier est que selon ces 3 pays, la Cour s'est montrée incapable de prendre en charge et de juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes d'agression avérés. Mais le Mali, le Burkina et le Niger vont même plus loin pour, disent-ils, garantir la paix et la justice, car ils envisagent de créer leur propre Cour de justice qui prendrait le nom de Cour pénale sahélienne. En attendant, l'Alliance des États du Sahel annonce quitter immédiatement la CPI, même si normalement les retraits sont encadrés et ne peuvent se faire avant 1 an. Une annonce qui ne doit rien au hasard, les 3 États, en agissant ainsi, donnent des gages d'amitié à la Russie. Il faut savoir en effet que le président Vladimir Poutine est visé par un mandat d'arrêt de la CPI depuis mars 2023 pour crimes de guerre présumés de déportation d'enfants ukrainiens.
Midi et 39 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
L'OCDE a révisé en hausse ce matin sa prévision de croissance mondiale pour 2025, 3,2% contre 2,9% anticipé avant l'été. Une bonne nouvelle donc qui s'explique notamment par la nouvelle donne sur les droits de douane. En revanche, l'organisation maintient ses prévisions d'inflation pour la France à 0,6% cette année et 0,9% l'an prochain. Puis c'est aujourd'hui que l'INSEE dira si la déjà colossale dette de la France a encore gonflé ou non au deuxième trimestre.
En attendant, les tractations politiques se poursuivent pour tenter de bâtir un budget capable d'éviter une censure parlementaire tout en assainissant les finances publiques.
Oui, le Premier ministre Sébastien Lecornu, toujours sans gouvernement, reçoit en ce moment même les représentants du Bloc commun. Demain, ce sera à nouveau au tour des organisations syndicales de défiler à Matignon, avant peut-être de nouveaux entretiens avec le Parti socialiste plus tard. Et puis cet après-midi, Sébastien Lecornu a prévu cette fois-ci de recevoir les auteurs d'un rapport sur l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Alors, ça n'est évidemment pas à hasard et surtout en rien déconnecté des tractations en vue de la formation d'un futur gouvernement, puisque la droite et l'extrême droite souhaiteraient, on le sait, réduire, voire supprimer carrément l'AME. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
À l'évidence, Sébastien Lecornu prend son temps. Est-ce que c'est de bon augure, Stéphane, pour parvenir à un accord de non-censure?
Ça, c'est difficile à dire. Mais effectivement, la négociation s'annonce délicate. Le Premier ministre avance donc pas à pas. Et surtout, il applique une méthode qui semble avoir été réfléchie dans ses moindres détails. Déjà, explique une ministre démissionnaire, il lui faut désamorcer une éventuelle censure qui pourrait intervenir dès la rentrée parlementaire début octobre. Et pour ça, il doit montrer qu'il est prêt à de réelles négociations. C'est pour cette raison que son entourage laisse entendre que l'exécutif n'est plus opposé à une taxation des plus riches. Le message s'adresse aux socialistes, il reste flou sur le fond, mais ouvre la porte à des discussions sur ce point. Ensuite, s'il franchit cette première étape, s'il n'est pas censuré début octobre, Sébastien Lecornu semble considérer qu'il a du temps devant lui, plusieurs mois de négociations jusqu'au vote du budget en fin d'année. Et qu'il doit dans ces conditions procéder par étapes, en abordant des sujets différents avec ses différents interlocuteurs. Avec les organisations syndicales par exemple, et notamment la CFDT qu'il recevra demain à Matignon, il abordera la question des retraites. Il va tenter de trouver un accord sur la pénibilité et la revalorisation de la retraite des femmes, l'un des combats du syndicat réformiste, ce qui permettrait de ne pas avoir à abroger ou à suspendre la réforme votée en 2023. Avec les socialistes, il n'évoquerait pas les retraites, ayant déjà traité le sujet avec la CFDT, mais négocierait donc la taxation des plus riches. Certains dans le camp macroniste évoquent ce matin un éventuel retour de l'ISF, l'impôt sur la fortune, un symbole extrêmement fort à gauche. Il pourrait également, dit-on, avancer des mesures environnementales pour donner l'occasion aux socialistes de tenter de convaincre leurs alliés écologistes. Enfin, Sébastien Lecornu doit aussi s'attirer les bonnes grâces de la droite républicaine pour qu'elle reste dans le socle commun et au gouvernement. C'est la raison pour laquelle il reçoit Patrick Stefanini et Claude Évin cet après-midi et laisse ainsi entendre qu'il pourrait réformer l'aide médicale d'État, un symbole et un marqueur, cette fois-ci à droite.
Merci Stéphane Robert. Nul n'est inemployable si on adapte l'emploi aux personnes. C'est du moins sur ce postulat que s'est lancé il y a maintenant 10 ans un dispositif expérimental baptisé Territoire Zéro Chômeur, un projet initié par 2 associations et repris depuis par le gouvernement, avec une idée au départ assez simple, parce que la privation d'emploi coûte plus cher que la production d'emploi, et bien il importe de ramener toujours les chômeurs de longue durée vers une activité salariée. Wafia Kenich, bonjour.
Bonjour Thomas.
On parle ici de postes en CDI adaptés à temps choisi selon les compétences, bien entendu, des personnes qui en bénéficient. Il se trouve qu'aujourd'hui est présenté donc le bilan de cette expérimentation. Un comité scientifique formé de statisticiens et de sociologues, 50 de chercheurs au total, ont travaillé à la demande du Haut Commissariat au Plan et de la DARES, le service statistique du ministère du Travail. Quel bilan, Wafia, ont-ils dressé?
Eh bien, tout d'abord, cette expérimentation atteint son objectif, à savoir permettre véritablement aux bénéficiaires de retrouver une place dans le monde du travail. 83 territoires sont concernés, partout en France. Ces emplois sont gérés par des EBE, les entreprises à but d'emploi, où travaillent 4000 personnes. La règle, ces EBE ne doivent pas faire de concurrence aux entreprises du territoire concerné. Zone urbaine, zone rurale, peu importe. À l'échelle locale, les vrais porteurs de ces projets, ce sont les élus, notamment le maire. Ce dispositif coûte cher. Si par exemple le département n'aide pas, alors bien souvent le projet échoue. Par ailleurs, c'est grâce aux élus locaux que l'on parvient à recenser et à sensibiliser les personnes très éloignées de l'emploi pour les faire entrer dans le projet. Quant au profil de ces salariés, ce sont majoritairement des femmes, des salariés âgés aussi. On trouve aussi une surreprésentation des salariés porteurs de handicap. Ce dispositif est extrêmement valorisant pour ces personnes qui en général restent salariés de ces EBE sans disposer malheureusement de passerelle vers un emploi dans les entreprises privées. En 2024, ce dispositif a coûté 57 milliards à l'État et 7,5 milliards au département.
Et pour continuer donc toujours d'évoquer ce rapport d'évaluation du dispositif présenté ce matin même donc au ministère du Travail, invité de la rédaction à présent Yannick Lorty, président du comité scientifique de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et toujours à mes côtés Wafia Kenich donc pour vous interroger.
Et tout de suite, je vais rectifier ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est 57 millions et 7,5 millions et pas milliards, on ne les a pas. Donc, premièrement, donc vous faites un bilan à la fois positif hein, quant aux personnes qui sont concernées, mais se pose immédiatement la question du redéploiement sur l'ensemble du territoire de ce dispositif. Est-ce que ça vous semble possible, d'une part, et quelle est la première chose à faire? Vous parliez d'une dotation nationale avant même le début de l'expérimentation pour chacun de ces territoires concernés. Est-ce que ce serait une des possibilités?
Oui, alors on vient effectivement de publier aujourd'hui notre rapport d'évaluation. Depuis l'été 2023, on travaille sur cette évaluation. Ça a été un travail assez considérable dans lequel, donc ça a été dit, un consortium, enfin cinq groupements de chercheurs ont travaillé avec nous. On a aussi fait des travaux à l'intérieur des administrations, des travaux d'appariement de données absolument originaux. Et on produit donc une évaluation assez complète hein, du dispositif qui prépare sans doute la décision politique, parce qu'on est dans un contexte en fait où actuellement il y a une proposition de loi qui est au Parlement et l'idée c'est que ce rapport d'évaluation qui a été lui-même très encadré par la loi vienne nourrir la réflexion des décideurs. Et donc dans une optique de généralisation du dispositif en fait il convient sans doute. En tout cas, c'est notre position hein, d'aller dans un sens de pérenniser l'expérimentation, le futur dispositif, mais d'en rénover aussi le cahier des charges. Alors, on pointe en fait un ensemble de limites dans le rapport d'évaluation. L'une d'entre elles que vous évoquez porte effectivement sur les inégalités entre territoires lorsque ils souhaitent obtenir le label territoire zéro chômeur. Il y a des inégalités de fait, et donc pour les corriger, ben, on propose en fait d'ajouter dans le dispositif une dotation de lancement pour les territoires qui n'auraient pas suffisamment de ressources pour entrer dans le projet.
L'autre élément, c'est de mieux cibler en fait les personnes concernées, c'est bien cela ?
Oui, alors le dispositif est déjà ciblé sur des personnes qu'on appelle les personnes privées durablement d'emploi. Mais effectivement, nous, ce qu'on met en évidence, le fait que l'offre qui est faite aux personnes, qui est un contrat à durée indéterminée, à proximité de leur domicile, à temps choisi, pour être inséré dans un collectif de travail, c'est un contrat effectivement très attractif. Et à partir du moment où les personnes signent leur contrat de travail et rejoignent une entreprise à but d'emploi, eh bien on constate qu'il y a très peu de sorties, donc il n'y a pas de rebond dans ce dispositif vers d'autres dispositifs, si bien que ben, on pense qu'il est important de conserver une priorité dans les différentes actions. La priorité en matière d'insertion, ça doit être d'aller vers l'emploi classique. Si les personnes ne peuvent pas aller dans l'emploi classique, alors il faut les orienter vers les structures d'insertion qui correspondent à leur capacité. Et si elles ne sont pas en mesure en fait, d'intégrer ces structures, alors l'entreprise, la but d'emploi, ça peut être une perspective intéressante pour les personnes, mais un peu comme solution selon nous, de dernier recours ou de fin de parcours professionnel pour ces personnes.
Donc il faudrait viser des zones, des personnes, il faudrait associer véritablement les collectivités, sans doute, l'État, qui est une prise en charge de ce dispositif plus général, national.
Alors, l'une des vertus intéressantes de l'expérimentation, c'est précisément d'embarquer en quelque sorte les élus locaux qui vont être les véritables pilotes de l'expérimentation. Et il nous semble intéressant effectivement que si une collectivité, un groupement de communes, un quartier, s'il y a une mobilisation des acteurs pour aller dans le sens donc d'une meilleure coordination et d'une meilleure insertion des personnes, bah qu'effectivement, ça puisse continuer. Et donc, le problème, c'est d'organiser un peu une nouvelle cohérence entre l'action de l'État, l'action publique, qui elle-même est réorientée dans le cadre de la loi pour le plein emploi. On organise un réseau pour l'emploi. Et il nous semble, en fait, que les comités locaux pour l'emploi pourraient constituer la dernière strate de ces réseaux pour l'emploi et donc d'être intégrés dans l'ensemble du dispositif, mais qui est toujours un que les élus aient la main, mais qui est aussi un contrôle de l'État.
C'est bien compris. Merci Yannick Lortie, président, donc je le rappelle, du comité scientifique de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de longue durée, d'avoir répondu à notre invitation ce midi. Merci également à vous, à Fia Kenich. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi variable sur les côtes ouest et le quart sud-est du pays. Partout ailleurs, le ciel sera le plus souvent couvert et humide. Quant aux températures, elles seront comprises entre 11 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par M. Le Chili à 18h. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.